Il est 22h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Mon invité Didier Pleu a tiré la sonnette d'alarme il y a bien des années et je suis sûre qu'il aurait été très heureux d'entendre l'émission d'hier, durant laquelle mon invité a indiqué que les primo-délinquants sont de plus en plus jeunes, avec souvent dans leur enfance un manque d'autorité, surtout paternelle. Et oui, une éducation digne de son nom doit certes parler d'amour, mais être aussi apte à poser les limites à un enfant. Sinon, de l'enfant roi, nous risquons fort de passer à l'enfant tyran. En tout cas, nous allons voir aujourd'hui, en compagnie de Didier Pleu, donc, comment l'enfant apprend à faire couple, c'est-à-dire comment il construit dans son imaginaire la relation à deux, parce qu'on voit de plus en plus de couples se séparer parce que l'un ou l'autre des partenaires, quand ce ne sont pas les deux, veulent garder à tout prix leur indépendance, j'oserais dire veulent rester des individus sans tenir compte de l'autre. Or, cette relation harmonieuse, ça repose bien sûr sur deux êtres à part entière, certes, mais qui acceptent de vivre ensemble et donc peut-être de ne pas être dans la toute puissance de leur désir. Ce juste équilibre semble de plus en plus difficile à trouver, et bien avec Didier Pleu, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre société. En tout cas, je vous invite à venir nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Didier Pleu.
Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous. Alors oui, hier, je suis sûre que vos oreilles ont sifflé parce qu'on évoquait donc ces jeunes de moins de 15 ans qui déjà ont affaire avec la justice et qui souvent, quand on a, d'après les témoignages qu'on a eus et d'après ce que me disait Jean-Louis Guilleneuf qui travaille beaucoup avec ces primo-délinquants, mais qu'il y a derrière souvent un manque de père, un manque d'autorité. Alors votre dernier livre qui vient de sortir, L'autorité éducative, une urgence aux éditions Odile Jacob, aurait été tout à fait le bienvenu hier, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Bonjour.
Oui, et j'ai bien aimé votre introduction, Brigitte, parce que vous pointez vraiment le débat, la question, comme vous l'avez fait hier. C'est vrai que maintenant, on commence à vraiment dire que nos enfants, nos adolescents et les jeunes adultes souffrent de carences éducatives. Et non pas simplement de carence affective. Ce contresens-là, on l'a entendu pendant des années. Il était vrai au siècle dernier. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient agressifs, qui avaient des passages à l'acte parce que ils étaient pas bien au niveau de leur estime de soi, de la confiance en soi. Il fallait retravailler ça. En revanche, on a été trop loin dans une sorte de permissivité éducative et on a effectivement annulé tout ce qui était autorité. Il fallait effectivement historiquement lutter contre l'autoritarisme. Souvenez-vous, l'enfant était un légume, n'existait pas dans les familles au siècle dernier. Et puis c'était pareil dans le couple, la femme n'existait pas. Hein. On avait le pater familias dans la famille et puis on avait le macho dans les couples. Donc il était bon de contester cet autoritarisme-là, mais on a été trop loin. On a voulu une égalité totale, et surtout entre enfants et parents, et ce qui n'a pas du tout marché, parce que l'enfant, comme le jeune adulte, a besoin d'une autorité, c'est-à-dire quelqu'un au-dessus de lui, qui lui apprend qu'on peut pas faire ce qu'on veut, qu'on marche pas à l'envi, qu'il faut quelquefois des efforts, et qu'il n'est pas là simplement pour être gratifiant, plaisant, communicant et sympathique. Oui, il faut aimer bien sûr son enfant, mais il y a aussi cet aspect apprentissage de la frustration, et vous l'avez bien dit, si on n'apprend pas ça, ben, l'individu, c'est pas simplement une personne à part entière, ça devient un être tout puissant. C'est-à-dire, les autres n'existent pas. Et c'est ce qu'on voit dans tous ces passages à l'acte de plus en plus quotidiennement, où je disais ce matin, j'étais avec une journaliste belge qui me disait, ben, il y avait un ado qui a lancé une bouche d'égout, je sais pas quoi, d'un pont d'autoroute, hop, ça a tué un chauffeur de camion. Il y a des passages à l'acte comme ça, pour le fun. Donc oui, ça pose le problème du pulsionnel, quoi.
Oui, ça veut dire aussi que quelque part, ce gamin qui a jeté cette bouche d'égout n'a pas conscience du mal qu'il peut faire à l'autre. Et ça, on l'a entendu encore hier sur le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Comme c'est virtuel, on se rend pas compte non plus du mal qu'on fait à l'autre. Vous avez avancé, j'imagine, aussi sur la compréhension de ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
Oui, parce que il y a pas de conscience morale, comme on disait. Alors, En psychanalyse, Freud appelait ça le surmoi. Il y avait un surmoi qui était trop important dans le temps. Hein. La religion, la société, ça a écrasé l'individu. Mais on l'a dit aussi, s'il n'y a pas une autorité qui apprend le bien et le mal, eh ben, les jeunes ne distinguent plus ça. Effectivement, dans le harcèlement, quand « Ah bon, ça a fait autant de mal à la personne quand je me suis... quand j'ai caricaturé son obésité, je peux... Ben oui, ça détruit l'autre. Ah bon, vous trouvez que je suis trop égocentrique au football, là je passe pas la balle ? Ben oui, non, t'es tout le temps tout seul. » Ça s'apprend. Mais le problème, qui a appris ça ? On ne l'a pas appris en famille, enfin, pas dans toutes les familles, il y a quand même des familles qui tiennent la route, mais on n'a pas appris cette notion de « Attention, l'autre existe et tu peux pas faire ce que tu veux », parce que dans le temps, on lui disait toujours « Tais-toi, n'existe pas parce que l'autre est trop important. » Donc, il faut rétablir une sorte d'équilibre. Mais c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup parce qu'on voit des agressions d'enseignants, on voit des agressions d'enfants et d'ados entre eux, on voit des agressions... Et moi, je vois l'épuisement parental en famille. Hein. Ils sont morts. Les parents sont fatigués. Ils sont complètement perdus. Donc, je pense qu'il faut qu'on reparle de cette histoire d'autorité sans retomber dans les blouses grises, l'autoritarisme d'antan, parce qu'il y a un mouvement de balancier. Hein. Quelqu'un me disait l'autre jour en consultation, « Bon, Didier Pleu, est-ce que je peux quand même donner une bonne fessée à un gamin qui pique ses colères ?» Non, là on va retomber dans les violences éducatives d'antan. Non, pas de fessée, mais qu'est-ce qui l'a amené à pousser tellement vos émotions que vous avez envie de le baffer, votre enfant de 3 ans ? Et là, on voit bien que l'enfant... Ben voilà, il choisit la nourriture, il choisit ses rythmes de vie, il choisit ses loisirs.
Oui,
il choisit
mais la difficulté, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on commence, Didier Pleu, c'est que c'est très 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 jeune qu'on apprend à l'enfant à ne pas avoir la réponse à tous ses désirs. Et c'est peut-être ce que les parents n'ont pas. Enfin, ce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. C'est dans les 3 premières années finalement que déjà il faut ne pas accepter de satisfaire tous les désirs de l'enfant. Et ça, parce qu'après ça devient enfin, plus on attend, plus c'est compliqué. On voit bien que c'est plus compliqué de faire comprendre à un ado l'autorité qu'à un tout jeune enfant.
Oui, tout à fait. C'est très jeune qu'on commence à apprendre ça. Mais souvenez-vous, il y a quand même un contresens en psychologie classique où, dans les 3 premières années, on a tout le temps insisté sur, attention, valoriser l'individualité de l'enfant, sa créativité, sa singularité, enfin tout le plan affectif, ce qui est bien. Mais on ne parlait pas justement de ces moments où il faut apprendre la frustration très jeune. Par exemple, je me suis souvent battu contre les histoires d'obligation d'allaitement à la demande chez un tout petit. On me disait, bah, c'est pas chaud votre truc, là, si la maman et si l'enfant. Oui, s'ils sont en harmonie, très bien, mais j'arrêtais pas de dire, mais si une maman n'est pas trop d'accord avec ça et répond à l'injonction de l'allaitement à la demande, elle est en train d'apprendre à son enfant que c'est quand tu veux que je suis chosifié. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait dire au gamin, au tout petit, attends 4 heures, là, je fais autre chose, mais entre sa demande et l'existence de la maman, voilà une première frustration. J'existe, je t'ai alimenté, tu es rasséréné et je passe à autre chose. On a le droit de faire ça. Et toutes les petites frustrations après, comme vous l'avez dit, très jeune, quand un enfant est en train de construire une tour, je ne sais pas quoi, avec ses jouets et que ça se casse la figure, si le parent aussitôt lui donne un autre jouet, il baisse sa tolérance aux frustrations. Si le parent lui dit, écoute, persiste un peu, continue, non, on ne va pas changer de jouet. Si effectivement les parents sont tout le temps des animateurs de Club Med tous les dimanches pour revoir 50 fois le même zoo, non, il faut aussi qu'ils montrent, on existe, on ne fait pas tout le temps ce que tu veux, mais il y a une nuance entre eux, tu ne fais rien des décennies précédentes et le tu peux tout faire de maintenant. Oui, c'est bien dans la petite enfance que ça commence, mais je suis optimiste, c'est très modifiable. Vous savez, j'ai travaillé 11 ans avec des délinquants récidivistes, j'ai bien vu que vraiment... des profils vraiment pas très sympathiques pouvaient se modifier parce qu'on faisait de l'éducation à l'époque.
Eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça. Et on va évoquer le couple, justement. Comment accepter de vivre à deux sans se... Bah, c'est parce que dès qu'on vit à deux, évidemment, on n'est plus dans une individualité personnelle. Il faut trouver des compromis. Donc, on va parler de ça avec vous, Didier Pleu. Et puis, dans un instant, on va évidemment donner la parole aux auditeurs au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur.
Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huiles et bougies de massage.
Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix.
Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins.
Découvrez notre nouveau showroom à Septèmes-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion.
Sud Radio Béziers.
102.6.
Sud Radio. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.
À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils. Tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. Nos actes manqués. Tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ces douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventées, tous ces mots que l'autre en fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Oh, 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 à mes actes manqués. Visage et dentelle croisées, juste frôlées. Aux trahisons que j'ai pas vraiment regrettées. Aux vivants qu'il aurait fallu tuer. À tout ce qui nous arrive, enfin, mais trop tard. À tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Aux peurs impossibles à échanger. Oh, 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 oh. À nos actes manqués.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes en compagnie de Didier Pleu aujourd'hui, qui nous propose son dernier livre, L'autorité éducative, une urgence, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Et avec lui, on va voir comment le fait de peut-être avoir manqué d'autorité dans son enfance peut nous rendre la vie de couple plus compliquée. Fabienne, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier, je suis très contente de vous parler.
Ben merci d'être avec nous. Donc vous avez...
C'est vrai que...
Allez-y.
Oui, le sujet m'intéresse parce qu'en fait moi je viens d'avoir 60 ans et j'ai toujours eu des couples qui ne durent pas, donc je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la prochaine fois? Parce que là j'ai rencontré quelqu'un lundi qui me semble vraiment parfait pour moi, mais maintenant... c'est quelqu'un qui a l'air de vivre des choses pas mal tout seul, donc je ne sais pas. Et moi, je suis un peu pareil, donc qu'est-ce que ça va donner?
Alors, vous l'avez rencontré déjà physiquement ou...
Oui.
D'accord. Et le courant passe, comme on dit?
Bah, le courant, ça sera bien, oui. C'est fluide, on a plein de points communs, plein de choses assez étonnantes qu'on aime bien.
Bon.
Voilà.
Alors on va essayer de faire faire le ménage chez vous, voir pourquoi ça n'a jamais duré. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que c'est vous qui partiez ou est-ce qu'on vous quittait déjà?
Il y a eu les deux, mais c'est vrai que c'est souvent moi qui suis partie. Il y a eu les deux. Le père de mon fils, moi je l'ai quitté. Voilà, après, j'ai eu 5 relations, ça dure 5 ans et en général, après, je m'en vais. Bon, la dernière, ça dure 1 an, je suis partie aussi. Et depuis 1 an, je suis seule et voilà, j'ai pas eu pour l'instant de coup de cœur et là, j'en ai un.
Mmh. Mais vous partez. Vous partez pourquoi? Vous quittez pourquoi?
Alors, parfois parce que je m'ennuie. Le père de mon fils, il m'avait trompée, j'avais essayé de renouer, mais je n'ai pas réussi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? D'autres personnes, la dernière, je vous avais appelé plusieurs fois pour ça, qui m'avait menti dès le départ, qui était devenu après assez coléreux, voire presque violent, enfin surtout dans les paroles, très violent. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autres personnes?
Alors déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Didier Pleu, mais je trouve que Fabienne parle de tous ces hommes qu'elle a peut-être au départ pensé aimer d'une manière assez négative. Est-ce que quelque part vous avez, enfin, je veux dire, vous arrivez à les admirer au début quand même ou pas?
Oui, mais oui, sauf la dernière. Enfin si, au début je l'admirais, après plus du tout parce qu'il m'avait menti sur plein de choses. Moi j'ai besoin justement d'admirer la personne avec qui je suis, d'être fière d'elle et voilà. Donc à chaque fois, oui, au départ je suis très fière, je suis très très admirative de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont.
Alors bon, qu'on n'accepte pas qu'on nous mente, ça c'est encore quelque chose qu'on peut comprendre, hein, Didier Pleu.
Oui, non, mais c'est vrai que si Fabienne a quitté des hommes parce qu'il y avait des menteurs, des infidèles ou alors des colériques, des violences, ça c'est tout à fait normal. C'est que l'autre dysfonctionne. Par contre, dans ce que j'ai entendu, on a l'impression qu'elle-même, Fabienne, a arrêté des relations parce que, comme elle dit, elle s'ennuyait, quoi, ça ne lui correspondait plus du tout. Donc c'est peut-être là qu'on dit souvent que est-ce qu'on accepte dans un couple cette fameuse tolérance aux frustrations, c'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'on peut passer de l'épisode un peu passionnel où il y a le désir, tout s'enflamme, tout est sympathique, romantique, en harmonie, et puis tout d'un coup la réalité revient. C'est-à-dire c'est là que on va construire. Mais quand on construit une relation dans un couple, il y a forcément de la frustration, c'est-à-dire il faut que j'accepte que ça va pas bouger, qu'il faut que j'accepte que je m'affirme parce que j'ai envie que ça bouge, etc., etc. Donc c'est peut-être ça que Fabienne doit revoir, c'est-à-dire si c'est simplement je désire un homme, je suis bien avec lui, puis quand j'en ai assez, je change. S'il n'y a pas une raison effectivement objective du style un compagnon pas très sympa, il faut qu'elle se remette en question en disant j'ai du mal à passer ce cap romantique, passionnel, formidable des premières années pour construire une relation qui est peut-être moins paroxystique, comme on dit, mais qui est peut-être beaucoup plus solide pour du bonheur à moyen et long terme.
Moi, il me semble que je mettrais aussi un mot sur ça, Fabienne, c'est l'acceptation d'être un peu déçu. Quand on rencontre quelqu'un, on a tendance de toute façon à un peu idéaliser la relation, à idéaliser l'autre, et à un moment donné, on le découvre tel qu'il est, avec bien sûr ses limites. Hein, et c'est vrai que si on l'accepte pas, ça, on va s'ennuyer et on va le quitter. Voyez.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup avancé là-dessus, parce qu'il y a certaines personnes, je me suis dit, avec le recul, maintenant, là, il y a des choses que j'aurais pu accepter. Donc maintenant, je pars sur des bases un peu plus, on va dire, souples, flexibles.
Donc c'est ça peut-être qui reste encore un tout petit peu à travailler. C'est-à-dire que vous êtes peut-être encore immature dans ce sens où vous attendez de l'autre qu'il soit merveilleux et qu'il vous permette de grandir. Mais il faut bien savoir que c'est soi-même hein, qui doit s'élever.
Je pense pas que je suis là-dessus. J'ai plus l'impression que dans la dernière relation d'avoir plutôt été moi la personne qui faisait grandir l'autre. Donc là, je voudrais justement quelqu'un qui on est un peu sur le même pied d'égalité, on est travaillé tous les deux sur 60 ans, on a tous les deux 60 ans, il y a plein de choses maintenant qu'on a compris, chaque expérience est évoluée. Et après, le thème c'est l'individualité, donc c'est là-dessus un peu individualité, indépendance, où la limite.
Eh bien, il faut dès le départ accepter de comprendre quelles sont vos propres limites, ce que vous et là où vous pouvez en effet accepter des compromis et respecter dès le départ vos propres limites. Et puis d'accord. ensuite, moi je crois qu'il faut pas trop se poser de questions au début d'une relation.
Voilà.
Il faut aussi la vivre avec.
Exactement.
Oui. Parce que sinon, si on est dès le départ en train d'observer ce qui ne va pas,
pour l'instant, tout va bien. Tout va bien.
Donc, laissez-vous enflammer et profitez-en.
Voilà.
Bon.
Mais écoutez, le reste de l'émission, peut-être que ça va me déduire.
Ben écoutez, on va essayer de voir.
Par rapport à mon enfance, moi, dans l'enfance que j'ai eue, j'ai pas eu l'impression d'être frustrée, j'ai pas eu l'impression d'être non plus sur un piédestal. On était trois enfants, moi je suis l'aînée. J'ai peut-être toujours été très, très autonome et indépendante. Moi, la grande, je partais toute seule. J'habitais en Vendée, je partais à Paris à 15 ans, 16 ans. Ma sœur n'a jamais pu faire ça, même encore maintenant, elle ne partira pas toute seule. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin de liberté et peut-être que ça me joue des tours. Hein.
Peut-être qu'à un moment donné, en effet, vous avez l'impression que vous perdez un petit peu de votre autonomie et donc c'est peut-être aussi pour ça. C'est toute la difficulté, mais c'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission avec Didier Pleu, évidemment. Merci beaucoup, Fabienne. On fait une petite pause. On retrouve Sophie dans un instant qui va témoigner à son tour.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Leclerc, bonjour.
Oh là là. Alors vous, mes petits gars, vous êtes vraiment trop mignons. La peau tendre et veloutée, la mine estivale et... Oh, et vous sentez sacrément bon en plus. Je crois que je vais vous adopter.
Monsieur, vous êtes à l'antenne.
Oh, désolé, j'étais en train de choisir des abricots.
Ah, je comprends. C'est vrai qu'ils font envie nos délicieux abricots à 2,89€ le kilo, du 14 au 18 mai chez Leclerc.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre A, origine Espagne, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Sud Radio Béziers.
104.7.
Sud Radio. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Les grands barres de béton redeviendront sable. Le ciel s'ouvrira sur un idéal. Les satellites, des anges de métal, lanceront des mots d'amour, on trouvera ça normal. Des armes de fer, on fera des fleurs, on mettra du cœur au robot moqueur.
Comme on a le champ libre, l'horizon, l'avenir, et puisque le ciel commence à nos pieds, réécrivons ce livre dès la première ligne.
Chapitre 1, l'humanité. Chapitre 2, l'humanité. Chapitre 3, l'humanité. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire. En déplaçant les ruines, comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire. En déplaçant les ruines, comme on l'imagine.
nouveau Dieu, nouveau locataire. Est-ce qu'on fera mieux? De l'eau, de la terre, de l'air et du feu.
Des larmes de guerre séchées au soleil, des rêves sans frontières, des châteaux de sel.
Au septième jour, Adam et Ève, on fera l'amour, mon amour. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi.
Sur cette terre, le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire
en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre.
Heures minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie de Didier Pleu, psychologue et auteur de L'autorité éducative, une urgence qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, on continue à évoquer la relation à deux, hein, qui forcément est faite, certes, d'amour, de sécurité, de confiance, mais aussi de frustration. Et c'est peut-être, parce qu'on l'a remarqué, hein, Didier Pleu, les couples se quittent de plus en plus vite, de plus en plus tôt. Est-ce que vous pensez que ça vient aussi de cette éducation peut-être un peu trop laxiste?
Oui, oui, puisque éducation, carence éducative, ça veut dire je vis que pour mon plaisir, je suis dans l'immédiateté. Donc effectivement, dans un couple, quand ça commence un petit peu, comme vous le disiez, à chauffer dans le sens où il faut faire des compromis, accepter un peu les dysfonctionnements, construire des choses... Ben, il y en a qui sont intolérants à ça, qui disent bah, « si c'est ça, moi ce que je veux, c'est simplement que ça marche sur le plan sexuel, sur le plan relationnel, et que ça ne me prenne pas le chou ». Combien de fois j'ai entendu des couples et qui me disaient tout simplement « oh, ça me prenait le chou ». Et quand je disais « mais c'est mieux maintenant », oh, oui, je refais ma vie, quoi. Oui, c'est comme une consommation, quoi. J'ai consommé.
Oui, c'est ça, on change voilà. De Kleenex, quoi. Voilà. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous.
Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Alors moi je vous appelle parce qu'en fait le sujet me tient particulièrement à cœur. J'ai été élevée de manière extrêmement individualiste. Cette éducation a été renforcée par l'idée qu'il fallait absolument que je m'en sorte toute seule. J'ai raté mes précédentes relations, dont le dénominateur commun de ces relations c'est moi. Donc je me remets beaucoup en question parce que on va bientôt emménager avec l'homme de ma vie et j'ai très très peur parce que je me dis dans quelle mesure mon caractère, mon individualisme, ma peur, c'est une sorte de peur hein, que j'ai aussi de me faire avoir, on va dire, par la relation. Donc j'appelle pour avoir des conseils sur comment gérer ça. J'étais individualiste, je suis devenue altruiste, donc ça déjà c'est pas mal. Mais il y a toujours cette peur de me faire avoir. Le couple de mes parents, c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Mon père a dit à ma mère, si tu divorces, tu n'auras rien. Donc j'ai mis un point d'honneur à être autosuffisante, on va dire. Donc j'ai très peur de vivre avec quelqu'un et j'ai l'impression que c'est à cause de moi que mes précédentes relations n'ont pas fonctionné.
Alors c'est jamais 100% à cause de nous, hein. Vous avez, il faut relativiser peut-être un peu. Moi ce que j'entends quand même surtout Nathalie, c'est d'abord votre peur, mais il faut toujours bien comprendre qu'est-ce que ça signifie d'être quelqu'un d'indépendant? Vous avez même dit autosuffisant. Est-ce que c'est parce que vous êtes quelqu'un qui aime bien être seul, parce que vous avez une richesse intérieure énorme, ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de tomber dans la dépendance de l'autre? Et c'est sûr que quand on est amoureux, que tout se passe bien, on devient dépendant de l'autre et on peut souffrir évidemment si la relation s'arrête. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et moi j'ai l'impression que votre indépendance est plus due à une peur de la dépendance que par une réelle indépendance. Et Didier Pleu, vous avez l'air d'être d'accord avec moi.
Ah oui, tout à fait, parce que là vous avez bien signifié la chose, c'est-à-dire si c'est une individualité, solitude, etc. Mais si c'est par contre parce que je crains, elle l'a dit, hein, Nathalie, que l'autre soit dangereux, puisqu'elle l'a vécu dans son enfance, elle a sans doute développé une sorte de schéma. L'enfer, c'est les autres, quoi. Donc, effectivement, oui. Même si elle est amoureuse dans son nouveau couple, elle se dit, mais qu'est-ce qui me dit qu'il va pas m'en jouer une, que c'est pas un pervers ou je sais pas quoi. Donc, dans ce cas-là, je crois qu'il faut qu'elle communique sa peur, qu'elle dise, bah, écoute, moi, je préfère être seule parce que les autres, c'était plutôt dérangeant, déséquilibrant. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Ça sera non pas de l'égocentrisme dans ce cas-là, hein. C'est pas moi, et j'en quitte les autres, puisqu'elle dit, elle est devenue altruiste. Mais, dans son altruisme, quand même, l'autre, il est encore inconsciemment, pas très net, assez dangereux. Donc, faut qu'elle en parle. Faut qu'elle dise très rapidement à son partenaire. Tu sais, quand tu me dis ça, moi, j'ai l'impression que t'es pas clair. Quand tu fais un peu ça, c'est un peu du chantage. Qu'elle dise, qu'elle affirme les choses pour mettre des mots sur ses émotions. Et dans ce cas-là, je crois qu'on peut dire que le partenaire peut faire autorité, justement, dans la petite faille d'un des deux. C'est quelqu'un qui est très gourmand, il va demander à son partenaire, bah, écoute, essaie de réguler mon appétit parce que j'ai du mal avec ça. Il faut que Nathalie passe réguler son individualisme avec son partenaire. Et si son partenaire l'aime, eh ben, en empathie, il se dira, j'ai compris qu'il était un peu sauvage par moment, mais j'ai compris le pourquoi du comment, donc je vais t'aider à être plus confiante.
Parce que vous avez dit une chose qui m'a un petit peu interpellée. Vous m'avez dit, j'ai peur de me faire avoir. Alors, oui. qu'est-ce que ça veut dire? En quoi il pourrait vous avoir? Vous voyez, c'est l'expression, elle est quand même imagée, hein.
Oui, en fait, alors c'est chez moi quand j'étais gamine, le père imposait tout. Et en fait, c'est ça pour moi me faire avoir, c'est qu'en gros, pour faire plaisir à l'autre, je pourrais accepter un compromis qui en fait m'est imposé. Et de ce fait, en concevoir une rancœur envers l'autre, qui serait uniquement de ma faute puisque c'est moi qui ai accepté. Vous voyez un peu le schéma?
Très bien.
J'ai très peur de ça, en fait. J'ai très peur de ça, d'accepter des choses qu'en réalité, je ne veux pas. Tout ça pour préserver la relation.
Eh bien, Nathalie, faites un petit travail toute seule, avec un petit bout de papier ou comme vous voulez, et posez vos limites. Qu'est-ce que vous êtes prête à accepter dans une relation à partir du moment où vous allez vivre avec lui? Ça, vous pouvez l'écrire noir sur blanc. Et puis après, comme le dit Didier Pleu, communiquer avec lui pour pas qu'il vous demande des choses que vous risquez d'accepter et de regretter ensuite.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai.
Et surtout, ne bien dire qu'il ne faut pas qu'elle confonde l'autoritarisme qu'elle a connu par son père, apparemment, et ce qu'elle va vivre maintenant. Donc, il faut qu'elle soit consciente. Je n'ai plus le même âge. Il y a un âge où je l'ai bouclé pour obtenir l'amour de mon père parce que c'était un autoritarisme pater familias. Mais à l'âge que j'ai, je peux très bien aimer quelqu'un sans me soumettre, sans me résigner, parce que je n'ai plus 6 ans, 15 ans, je suis une femme mûre qui peut dire à mon compagnon, bah, écoute, ça ne me plaît pas, excuse-moi, mais est-ce qu'on peut faire autre chose?
Vous avez un peu une idée de la manière dont il a géré ses relations précédentes, cet homme?
Disons qu'il s'est laissé gérer, voilà, pendant une bonne vingtaine d'années.
Bon, donc c'est pas quelqu'un d'autoritaire, visiblement, voyez?
Non, pas du tout. Et on a beaucoup de chance parce que le dialogue est très libre. Il est exempt de tout jugement, de toute interprétation, de toute prise de position personnelle. Donc déjà, ça, la parole est très libre entre nous.
Donc, a priori, vous avez fait un choix qui correspondrait bien à ce que vous êtes et qui ne vous permettra pas de tomber dans vos peurs. Donc faites-vous confiance et faites-lui confiance. Et donc si vous pouvez lui faire confiance, ça veut dire que vous pouvez communiquer, vous pouvez montrer votre vulnérabilité, il n'en profitera pas.
Ah oui, c'est vrai. Merci. Merci de m'ouvrir les yeux. Vous avez tellement raison. Mais oui.
Voilà. Parce que si votre conjoint n'est pas votre père.
Oui. Ouais. Parce que c'est terrible, hein. À 50 ans, ne pas arriver à tourner la page.
C'est toute notre vie.
Non, mais ça, c'est des répétitions, c'est nos schémas, c'est nos automatismes. On peut se dire, à l'âge que vous avez, c'est pas mon papa, c'est un homme que j'aime, et on va construire autre chose ensemble.
Voilà.
Et
je vous assure, si vous arrivez à lui en parler, ça va calmer vos peurs. Parce que c'est encore une fois pareil. Les mots qu'on a dit calment nos peurs. Alors, sinon l'émotion reste à l'intérieur de nous et c'est là où on fait des on va avoir des comportements qui vont provoquer ce qu'on craint.
Oui, j'ai tellement connu ça.
Oui, Brigitte a tout à fait raison. Si vous gardez ces histoires-là, vous allez garder les schémas de papa qui était autoritariste et tout et qui faisait peur et qui vous soumettait. Quand on en parle, on se rend compte que le partenaire, c'est pas papa, c'est un autre homme qui peut m'entendre, qui peut me comprendre et avec qui on peut construire quelque chose. Parler, c'est éviter ce qu'on appelle des synthèses émotionnelles. C'est-à-dire, on reste pas avec cette émotion pure qui vient de je ne sais où et qu'on ne peut pas traiter comme ça.
Oui, j'ai pas de mots, je reste pantoise. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Nathalie, merci à vous parce que votre témoignage il est fort pour ceux qui écoutent et ça va permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir avancer. Merci beaucoup, Nathalie, et je vous souhaite plein de bonheur. Nous avons Gabriella qui est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Vous pourrez en poser une ensuite à Didier Pleu. Bonjour, Gabriella.
Bonjour, toujours contente de vous retrouver.
Merci. Alors, première question. Est-ce que votre papa et votre maman avaient l'air de s'aimer beaucoup quand vous étiez une petite fille? Est-ce que vous aviez cette impression? Pas du tout. Ah là là, ça commence mal.
Ouais.
C'était pas ça. Bon.
Non, du tout.
Et est-ce que, alors deuxième question, est-ce que vous croyez à l'amour? Est-ce que vous avez réussi des belles histoires d'amour?
En tout cas, j'en ai reçu une. Ça va faire 21 ans vendredi.
Wow.
Et oui, avec des bas, des hauts, des super hauts, des super bas. Mais quand même, on est devenus vraiment deux amoureux. On a 50 ans et ma foi, je suis très fière de ça, en tout cas.
Vous pouvez, c'est bien, 21 ouais. ans. 21 ans, c'est déjà un bail, hein, Didier Pleu, bien. Puis on sent la manière dont vous en parlez, on sent de la manière dont vous en parlez que ça va bien.
Oui. Ça n'a pas toujours été comme ça, hein. mais on est devenus amis.
D'accord.
Je ne connaissais pas cette relation-là, et donc du coup, voilà.
Super. Et alors peut-être une troisième question rigolote. Comment il vous appelle? Quel est le petit mot qu'il utilise pour
ma biquette.
Ma biquette. Ah,
bon.
C'est rigolo quand même, Didier Pleu, les mots qu'on donne à son ou sa partenaire.
Biquette, c'était très drôle, surtout pour ma génération. Ça signifie bien quelque chose dans la cour de récré. Mais là, c'est ma petite biche maintenant en 2024. Non.
Et ça signifiait quoi alors dans votre cour de récréation, ma biquette, Didier Pleu? Qu'est-ce que c'est?
C'était mon zizi.
Ah!
Oui, c'était le mot qu'on disait pour zizi. C'était une biquette. Voilà.
J'ai dire ce soir.
Non, dites-lui le jour de l'anniversaire de votre mariage, vendredi. Ça vous fera un petit. Moi je ne connaissais pas ce mot non plus pour appeler le pénis d'un homme. Ma biquette. Bon.
Pour une fois que je vous apprends des choses sur ce plan-là, Brigitte.
On en apprend tous les jours, vous savez, Didier. Bon, Gabriella, vous pouvez poser une question à Didier, il vous écoute.
Moi je voudrais qu'il me raconte une belle histoire. J'ai un rhume allergique, du coup je parle avec le nez, je renifle. Du coup j'aimerais bien qu'il me raconte une histoire, une des plus belles histoires qu'il ait pu avoir dans sa vie de thérapeute, concernant le couple évidemment.
Une belle histoire?
Oui, une belle histoire, parce qu'on entend souvent, j'adore vos émissions Brigitte, et vous nous faites avancer, Didier Pleu, j'adore tout ce que vous dites aussi, mais bien souvent on dit des choses, il y a beaucoup de choses dramatiques ou graves, et là j'ai envie de quelque chose de sympa.
Non, mais j'ai plein de belles histoires parce qu'effectivement, à chaque fois que je travaille, j'avais déjà encore ce matin quelqu'un qui avait des difficultés parce qu'il disait, mais j'ose pas parler de tous mes fantasmes à ma future épouse, etc. Et puis, de décortiquer, de découper tout ça, les peurs de chacun, je sais que c'est un couple qui va construire des tas de choses. Donc, oui, on peut modifier les choses, on peut déséquilibrer tous les automatismes, les croyances qu'on a. Et je crois que la belle histoire, c'est que l'humain, comme le couple, est profondément modifiable. Et ça, c'est pour moi, c'est pour ça que je continue de consulter, etc. Parce qu'on part d'un point zéro, on a l'impression que tout est négatif, c'est foutu, il y a que des big fucking baby en 2024, on peut rien vivre de sympa. Et puis on se rend compte que quand les gens communique, comme dirait Brigitte, quand les gens se respectent et quand les gens se remettent en cause, ben, ça finit toujours par une belle histoire. Non, moi, ma plus belle histoire, c'est avec ma femme. 48 ans, hein. Vos 21 ans, je suis d'accord, mais moi, c'est 48 ans. Quoi.
Ah oui, bon, respect. Hein,
quand même,
oui, respect.
N'est-ce pas? Le cordonnier n'est pas le plus mal chaussé, comme on dit.
C'est vrai.
Bon, et ben c'est vrai que c'est une belle histoire. Merci beaucoup, Gabriella. Merci à vous.
Allez, à vous, continuez.
On fait une petite pause. Vous aussi, vous avez besoin d'un éclairage sur votre couple ou votre futur couple. Bien, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio Corté.
99.6.
Sud Radio.
Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes aujourd'hui avec Didier Pleu, psychologue, auteur de nombreux livres. Le dernier, L'autorité éducative, une urgence, paru aux éditions Odile Jacob. Et on évoque aujourd'hui justement la capacité à aimer l'autre, en se respectant bien sûr, mais également en respectant l'autre. Et ça part déjà dans l'enfance, hein. On le voit bien d'ailleurs, hein, quand on est dans une fratrie, on voit bien qu'il y a des enfants plus individualistes, plus égoïstes que d'autres. Et c'est peut-être parfois aussi aux parents, hein, d'apprendre à leurs enfants à partager, par exemple, hein, Didier Pleu.
Oui, tout à fait. Moi, vous vous souvenez qu'on avait fait paraître un livre dans votre collection qui était « On aime comme on a été aimé », hein, point d'interrogation. Et je pourrais même dire aujourd'hui qu'on aime comme on a été éduqué aussi, parce qu'effectivement, si quelqu'un est élevé comme un petit roi, centré sur lui, etc., il aura beaucoup de mal à accepter la présence de l'autre dans un couple et les frustrations qui l'accompagnent. Donc oui, la petite enfance compte, tout ce que l'enfant intègre comme philosophie de vie, j'ai envie de dire. Si effectivement tout est fait pour son développement personnel, tout est fait pour son actualisation de son potentiel, tout ça c'est très bien, mais il faut aussi inclure l'autre, comme vous disiez, est-ce qu'il partage ses jouets avec les autres, et non pas de dire ah ben les enfants sont empathique à la naissance, parce que dans les crèches, un petit va donner son goûter à celle qui n'a pas de goûter. Moi, je vois plutôt des enfants qui piquent la voiture de pompier à l'autre dans les crèches parce qu'il n'a pas le jouet qu'il voulait. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut voir l'humain comme quelqu'un de méchant et tout. Il y a des tempéraments plutôt anxieux, introvertis, qui sont, je crois, naturellement empathiques, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont plutôt « je fais ce que je veux », je pique le jouet à l'autre, j'en ai rien à taper si ça lui fait du mal, etc. Ça ne veut pas dire que l'enfant est méchant en soi, mais il a besoin d'une autorité qui lui dise « t'es pas tout seul, les jouets ça se partage, les goûters ça se partage, on coupe pas la parole, on goûte les légumes que le papa ou la maman a fait pour la cuisine ». C'est ça la notion, des petites choses de bon sens qu'on a trop oubliées parce que, je répète, on a trop développé cette hypothèse que l'amour, oui mais ça ne suffit pas.
Cédric est avec nous. Cédric, votre témoignage va peut-être en toucher d'autres aussi, puisque vous avez vécu 22 ans avec votre femme qui vient de vous quitter il y a un peu plus d'un mois, je crois. Et c'est compliqué pour vous. Vous savez pas trop si c'est vraiment fini, s'il y a quelque chose peut-être à changer pour arriver à faire revivre la relation. Il me semble que vous, dans votre couple, vous n'avez pas su communiquer suffisamment. C'est un peu ça. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Didier. Oui, c'est exactement ça. J'ai effectivement eu la chance de vous avoir déjà, Brigitte, il y a un mois, quelques jours après la séparation, qui est très, très, très brutale pour moi. Et avec un petit mois de recul et quelques discussions, en fait, je me rends compte que le vrai coupable a été une absence de communication totale. Et à mes yeux, elle a établi la relation sur de fausses bases, sur des interprétations, et ça nous a amené à la rupture. Moi, j'ai l'impression que le couple s'est détruit sur des faux personnages durant ces trois ou quatre dernières années, et que on est rentré. Moi, elle me repoussait tout le temps au lit, donc du coup, je perdais des sentiments. Je me posais plein de questions et je me suis réfugié dans mon individualisme. Le travail, le sport, les enfants, parce que je suis un père très très proche de mes deux enfants de 17 et 11 ans. Et j'ai pas réagi à ces signaux. Je les ai vus parce que j'étais pas dans une situation non plus très 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 bien. Mais je me suis dit ça y est, va mieux demain, ça va passer. Le grand va partir faire ses études. On va peut-être se retrouver.
Cédric, vous avez dit une chose qui est importante sur laquelle je veux déjà rebondir. Vous m'avez dit elle vous repoussait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a eu une attitude, j'allais dire également agressive passive qu'on voit beaucoup beaucoup chez les femmes, parce que sans doute il y avait des choses qui ne lui plaisaient plus. Elle vous a refusé la relation intime. Et oui. comme beaucoup d'hommes dans ces cas-là, vous vous êtes senti blessé, rejeté, et vous avez pris une attitude également de d'égoïste, ou en tout cas vous avez réagi. Mais au départ, elle non plus, elle a pas su communiquer, parce que quand ça va plus dans un couple, je vois pas pourquoi. On dit pas qu'il y a quelque chose qui va plus. C'est pas en refusant les relations sexuelles qu'on communique. Vous êtes d'accord avec ça, Didier Pleu?
Ah, aussi, oui, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, elle me dit qu'elle est autant responsable. Mais moi, ce que je n'arrive pas à accepter aujourd'hui, c'est que je lui ai dit, voilà, tu aurais tiré la sonnette d'alarme, on faisait un bilan, on repartait sur des choses.
Le conditionnel, ça ne marche pas, Cédric. Hein. Didier, qu'est-ce que vous avez envie
que la compagne de Cédric a tiré la sonnette d'alarme, comme vous le disiez, avec cette réticence par rapport à l'intimité. Donc effectivement, la réaction masculine en général, s'il n'y a plus de désir du côté du partenaire, c'est foutu, c'est nul, je vais faire autre chose, je vais faire du sport, m'occuper d'autre chose, alors que c'est un appel au niveau communication, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ma femme me désire plus. Et en général, excusez-moi pour les clichés, mais on dit souvent que les désirs de la femme est souvent lié à l'amour qu'elle porte pour son conjoint, hein, beaucoup moins chosifié que dans la relation inverse, l'homme envers la femme. Donc je crois qu'il y a eu un ratage de communication, tout simplement, quoi. C'est-à-dire, ça aurait dû se passer normalement, on devrait avoir une intimité qui marche toujours autant, s'il y a un hic, il faut qu'on en parle. C'est que ça signe quelque chose de plus important dans notre vie. Est-ce qu'on parle assez? Est-ce qu'on se respecte assez? Est-ce qu'on construit des choses ensemble, etc.?
Et ça, elle l'a vu quand je lui ai dit, parce que c'est la première chose que je lui ai dit. J'ai dit, mais tu me quittes là, mais moi j'étais en souffrance parce que tu me repoussais et je t'ai mis en souffrance par mon attitude, et tout ça avec un point de départ qui a certainement été des problèmes financiers où elle m'a reproché, bon voilà, parce qu'il a fallu demander de l'argent à son père pour qu'on s'en sorte il y a 3-4 ans suite à à la perte de mon entreprise. Et bon, après on s'est relancé, mais voilà, et là elle dit voilà, le fil il est cassé, l'amour il est plus, le sentiment il est, alors que chez moi j'ai l'impression qu'il a décuplé, il est encore plus fort qu'avant, et que j'ai vraiment cette sensation d'être dans un mauvais film qui avait une autre fin, quoi, et qui pouvait l'avoir, parce que quand je lui ai dit tout ça.
Oui, mais je suis pas sûre, Cédric, je suis pas sûre que ce soit très simple pour elle non plus de communiquer. Donc, dans un premier temps, ouais. on a envie de dire, est-ce que vous pourriez pas rencontrer un conseiller conjugal, enfin quelqu'un qui va faire un peu la part des choses. Et puis moi, je vous conseillerais dans votre cas, et c'est parce que on ne sait pas là, en l'occurrence, si en effet l'amour est fini chez elle, ou si il y a des rancœurs, il y a une sorte comme ça de mise à distance. Donc moi, je vous conseillerais dans ces cas-là peut-être de faire un vrai break de 2 mois, 3 mois, avec réellement à ce moment-là pas du tout de contact, de manière à ce qu'elle se rende compte si vous lui manquez ou pas. Alors après 2 mois, 3 mois, c'est peut-être beaucoup pour vous. Faut à vous trouver un juste équilibre, parce que pour l'instant, comme elle a de la rancœur vis-à-vis de vous, sans doute, de toute façon, quoi que vous disiez ne fait que réactiver sa rancœur. Et il faut voir maintenant si, quand vous n'êtes plus là, si le vide que ça va créer, parce que ça va forcément créer un vide quand on a vécu 22 ans avec quelqu'un, même si... c'est la distance qui va lui permettre de se rendre compte si elle vous aime encore. Et donc, moi, je crois que c'est... Mais jouez carte sur table, dites-lui bien, écoute, on fait un break, je te laisse tranquille pendant 1 mois, 2 mois, et puis tu verras si je te manque ou si je te manque pas. Il faut prendre ce risque-là, me semble-t-il. En tout cas, c'est un peu le conseil que j'aurais envie de vous donner, même si ça va être difficile pour vous, parce que vous êtes pour l'instant dans l'espoir de la retrouver. Didier Pleu, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait, Brigitte, parce qu'effectivement, si Cédric continue à, non pas à harceler, mais à dire « je t'aime, j'ai vraiment compris que tu étais la femme de ma vie, moi, c'est décuplé mon amour », ça va renforcer la rancœur de son épouse. Donc effectivement, la distance, le break, allez, on met un repos dans tout ça, fait qu'elle faudra qu'elle se pose des vraies questions. Non pas qu'elle entende « qu'est-ce que je t'aime » alors qu'elle doit penser « mais il m'a toujours mal aimé avant ». Non, il faut qu'elle comprenne que « est-ce que cet homme-là me manque ?» Comme vous l'avez dit, Brigitte, est-ce que j'ai de l'amour pour cet homme-là ?
Et en agissant comme ça, Cédric, vous montrez que vous êtes un homme, un vrai, courageux, capable de lui laisser la distance. De, vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un qui est à ses genoux en train de la supplier de vous aimer encore. Et ça, c'est quand même généralement quelque chose que les femmes, tout d'un coup, sont d'abord surprises et appréciées. Est-ce que ça vous semble possible de faire ça, Cédric ?
Alors, ça me parle, mais c'est très ambivalent chez moi parce que d'un côté, j'ai cette envie parce que j'ai quand même consulté un psy qui m'amène à cette phase de deuil, qui me dit voilà, maintenant il faut passer à autre chose, si elle a besoin d'autre chose, il faut pas que vous restiez dans ce schéma là qui pourrait vous faire tourner en boucle et vous faire pas sortir de cette impasse. Et je lui avais proposé d'aller voir un psy ensemble dès le moment de la rupture. Oui. Elle m'a de suite dit non, et là il y a 3 jours, elle m'a dit bon, mais écoute, finalement, tu vas me prendre pour un con, mais je veux bien aller consulter parce que j'ai un fort sentiment de culpabilité, alors que je ne dois pas me sentir coupable.
Donc alors, là, on a un rendez-vous privé. Donc ça c'est bon signe qu'elle accepte un rendez-vous. Donc allez à ce rendez-vous et en fonction de ce qui se passe, bien peut-être que prenez la décision de faire le break ou pas. Là, en l'occurrence, ça va dépendre de ce qui va se dire devant la tierce personne, mais c'est en effet plutôt un signe positif. Merci Cédric, merci beaucoup. On va faire une petite pause, je vous donne une devinette, Didier Pleu, vous n'y échappez pas. Pourquoi les femmes ont souvent le pare-choc de la voiture un peu embouti ? La réponse, c'est après les infos.
Sud Radio, à Morlaix, en DAB+.
Sud Radio.
I've been dreaming. Friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wild flowers, they keep living a while. They're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?
Sud Radio.
Pas
tu vois. Je m'en vais loin, me trouver moi, loin du blabla, des idéaux que tu veux coller à ma peau. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on me voit. Y'a pas de doute, je suis faite comme ça. Ce soir, je me fais la belle, loin de tout ça.